Madame, monsieur, je vous souhaite une belle journée. Vous êtes à l'écoute de Radio Alliance Plus sur 103.2 FM, mais aussi vous nous écoutez à Nîmes en DAB+, ou sur radioallianceplus.fr. Je suis le docteur Jacques Jean, je produis, j'anime l'émission que vous écoutez et qui se nomme Votre Santé, un trésor. Nous recevons aujourd'hui monsieur Denis Philippe, qui est président de la CRES Provence-Alpes-Côte d'Azur. La CRES est la Chambre régionale des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Monsieur Denis Philippe en est depuis 2015 le président. Il est aussi administrateur de l'ESS France, c'est-à-dire la Chambre française de l'économie sociale et solidaire, administrateur membre du bureau Aesio Mutuel, en charge de l'ES et conseiller au Conseil supérieur de l'ES et membre de son bureau. Denis Philippe siège dans cette organisation ministérielle en représentation de la Mutuelle française. Il est premier vice-président de la Mutuelle française PACA et anime le GTESS. Beaucoup d'anachronismes, mais bonjour à vous, monsieur Denis Philippe, et merci de d'être avec nous. C'est la deuxième fois que nous nous parlons, alors que le double remerciement, vous allez nous expliquer tous ces acronismes. Alors, vous êtes administrateur de l'ES chez Aesio Mutuel. Pourriez-vous nous traduire simplement ES et nous expliquer comment vous la valorisez et de nous expliquer votre position et tout votre engagement?
Ben écoutez, je vous remercie d'abord de m'avoir invité.
Mais tous c'est nous qui vous remercions d'être venus.
Et surtout ESS, c'est vrai que c'est un acronyme, mais ça permet de diminuer ce qu'est la réalité de l'économie sociale et solidaire, puisque ESS, ça veut dire économie sociale, solidaire. Ça veut dire que ce sont des entreprises de l'économie sociale et solidaire.
Alors l'économie sociale et solidaire, c'est quoi?
Ben ce sont des entreprises, ce sont des mutuelles.
Des mutuelles, quand vous dites entreprise, ce sont des mutuelles.
Des mutuelles, mais
c'est pas une entreprise de maçonnerie,
Il peut y avoir des maçons qui sont des entreprises de maçonnerie qui relèvent de l'économie sociale et solidaire.
Oui, d'accord.
Puisque vous trouvez des mutuelles dans l'économie sociale et solidaire, vous allez trouver des coopératives, vous allez trouver des fondations, vous allez trouver des entreprises classiques mais qui se sont fait reconnaître d'utilité sociale.
Exemple?
Par exemple, vous pouvez avoir une entreprise capitalistique normale, une entreprise de maçonnerie, comme vous l'avez cité, mais qui a une politique sociale différente, qui favorise peut-être l'accès à des personnes qui étaient éloignées de l'emploi, ou qui vont favoriser l'accès à des personnes en situation de handicap. Elles peuvent solliciter à ce moment-là une reconnaissance d'utilité sociale, et elles rentrent automatiquement dans le champ des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Et puis, je ne voudrais pas oublier le gros des troubles dans l'économie sociale et solidaire, que sont les associations, puisque vous savez qu'il y a des associations, dans tous les types d'associations sportives, dans notre vie quotidienne, nous sommes souvent en contact avec des associations.
Alors ça représente un potentiel de participants de combien? Entre les associations, les entreprises, les fondations, etc., ce sont les adhérents, les participants. Ça représente combien d'entités?
Alors, si vous parlez de ce que moi je connais et que je maîtrise bien au niveau de ma région, puisque je suis le président de la Chambre régionale de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est un peu plus de 16 000 entreprises, c'est 200 000 salariés.
Nous, en région. 200 000 salariés.
200 000 salariés de l'économie sociale et solidaire. Emploi économique, c'est 13,75% du PIB, puisqu'on a l'habitude de classer de cette façon-là. Par contre, au niveau national, l'économie sociale et solidaire, sur sa réalité économique, c'est 10% du PIB national.
10%, mais c'est énorme. C'est énorme. Donc, pouvez nous donner un chiffre national financier?
C'est des millions de. En chiffre d'affaires, ce sont des milliards, forcément, puisqu'il y a des très, très grandes entreprises. Et on l'oublie parfois. On a tendance parfois à caricaturer l'économie sociale et solidaire et à considérer que ce seraient des petites structures qui ne vivraient qu'à coup de subvention. Ce qui est complètement faux, parce que quand on regarde ce que l'État peut verser comme subvention à l'accompagnement des entreprises, on s'aperçoit très vite que dans les subventions qui sont versées aux entreprises, l'économie sociale et solidaire ne perçoit que 4% des subventions qui sont annuellement versées pour le soutien et le développement des entreprises. Donc c'est vraiment une caricature quand on dit l'ESS, ce sont ces associations qui vivent à coup de subvention. C'est pas vrai.
D'accord. C'est important que vous le précisiez. Alors, une question que j'aimerais vous poser, c'est la structure juridique. C'est quoi?
Il y a une loi. Il a fallu attendre la loi de 2014 pour qu'on reconnaisse dans ce pays la réalité de l'économie sociale et solidaire et de ce qu'elle représentait et qu'on définisse qui justement entrait dans le champ de l'économie sociale et solidaire.
Donc c'est basé sur une loi parlementaire votée, reconnue, voilà, 2014. Oui.
2014, qui est la loi sur de reconnaissance de l'économie sociale et solidaire, et qui a déterminé quelles étaient les organisations représentatives. Vous l'avez cité dans votre présentation, vous avez la Chambre française de l'économie sociale et solidaire, qui a sa marque qui s'appelle ESS France, oui, qui au niveau national représente l'intégralité de l'économie sociale et solidaire, oui, et de ses acteurs. Oui. Et cette loi a défini également que dans chaque région, il y aurait une chambre régionale de l'économie sociale et solidaire qui, sur le territoire régional, représenterait l'intégralité des entreprises du secteur de l'économie sociale et solidaire.
Alors c'est là où on vous retrouve et c'est cette chambre que vous présidez au niveau PACA.
Voilà, j'ai la chance moi de présider la chambre régionale de Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais si je suis venu à la présidence de cette chambre, c'est parce que j'avais précédemment un engagement mutualiste, et vous l'avez rappelé, oui, également, la mutuelle Aesio.
Aesio, oui.
Aesio, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire.
D'accord.
C'est une entreprise qui fait des milliards de chiffres d'affaires, qui a plus de 3000 salariés, qui est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Et qu'est-ce qui fait la différence? Pourquoi on dit qu'on est de l'économie sociale et solidaire? C'est-à-dire que nous ne rémunérons pas d'actionnaires, et que dans la gouvernance, vous avez d'un côté ce que j'appellerais des politiques, c'est-à-dire des élus,
oui,
mutualistes,
oui, oui,
qui président à la gouvernance politique.
Qui montent de la base, oui.
Qui viennent des adhérents eux-mêmes.
Du terrain.
Puisque,
oui,
les adhérents élisent leurs représentants, lesquels représentants siègent au conseil d'administration, élisent un président. Donc vous avez une gouvernance politique et vous avez une gouvernance opérationnelle avec des collaborateurs qui sont, oui, des collaborateurs très qualifiés.
Qui sont salariés,
qui sont salariés
techniciens et,
voilà,
et qui travaillent à plein temps. Quoi.
C'est ça, il y a une complémentarité entre le président et le directeur général.
Voilà,
il y a une complémentarité avec les élus qu'on retrouve également dans les territoires. Et ici, vous avez la chance d'avoir un territoire Aesio important puisque le territoire de la mutuelle Aesio couvre Occitanie, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse.
Oui.
Et vous avez des élus et des collaborateurs qui animent ce territoire.
Et puis nous sommes des gens très performants, très, très impliqués, qui se donnent pour Aesio dans le Gard et autour de Nîmes. Alors, vous avez dit que l'Occitanie... Bon, nous sommes en Occitanie, donc vous êtes en PACA, mais l'Occitanie a une chambre où vous faites ça...
C'est obligatoire. Dans,
voilà,
chaque
donc,
région,
voilà,
il y a une chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Et mon collègue qui préside la chambre régionale d'Occitanie,
oui,
qui est un mutualiste aussi, puisqu'il, oui, est le président également de la Mutuelle des Motards, qui est une mutuelle qui est connue.
Oui.
Il est président aujourd'hui de la chambre régionale de l'économie sociale et solidaire
d'Occitanie. Vous avez bonne relation?
On a des bonnes relations.
Ça roule, si vous me permettez.
Ça roule bien, d'autant que je suis motard, donc ça
bon,
ne peut qu'aller bien.
Bon, mais très bien. Donc, c'est important. Alors, bon, vous nous avez parlé de ce qu'était l'économie sociale, la loi 2014, qui a certainement le nom de ministre, qui vous a mis en place, qui vous donne la possibilité, votre structuration, etc. L'organisation avec des élus qui viennent de la base, donc des élus, et puis des techniciens, des salariés. Et bon, quel est votre rôle ?
Mais moi, c'est d'animer, de rappeler et de faire en sorte que nous puissions affirmer que nous sommes une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Je parle bien d'Aesio Mutuel,
oui,
mais ça ne veut pas dire que nous ne discutons pas avec d'autres entreprises qui ont d'autres modèles économiques. Et le modèle dominant, vous le connaissez, qui est un modèle capitalistique. D'autant plus que nous sommes, nous, à Aesio Mutuelle, une mutuelle interprofessionnelle. Ça veut dire quoi, interprofessionnelle ? C'est-à-dire que nous nous adressons à toutes les entreprises, à tous les secteurs d'activité économique.
Mmh.
Le rôle d'une mutuelle, bah, c'est de venir compléter la part de la sécurité sociale. Nous sommes une complémentaire santé, mais politiquement, nous affirmons haut et fort, puisque c'est la réalité, la loi est venue le confirmer, que nous sommes une entreprise de l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire que dans l'économie sociale et solidaire, le premier mot, c'est économie, c'est notre modèle économique. Et une mutuelle, par définition, elle a une fonction sociale et elle a également une fonction solidaire. Comment nous faisons notre fonction sociale en étant ce que nous sommes, complémentaire santé? Comment sommes-nous solidaires? C'est quand nous nous engageons également, que nous venons être partenaires d'actions de solidarité que nous représentons, qui portent nos valeurs et pour lesquelles nous voulons être partenaires. Donc nous sommes tout à fait dans le champ d'une entreprise économique qui a une réalité économique,
oui,
qui doit être performante. Nous sommes sociales puisque nous sommes une mutuelle, c'est le principe,
oui,
mutualiste. Et nous sommes également solidaires quand nous repérons des actions qui vont dans le cadre de la prévention, de maladies, docteur, et vous devez le savoir, et nous pouvons tout à fait être partenaires d'actions qui nous semblent bénéfiques pour l'ensemble des citoyens du territoire.
Alors, je vais vous demander, si vous le voulez bien, de nous citer deux exemples d'actions solidaires. Nous en avons... Mutuelle, on sait, vous complétez ce que la sécurité sociale ne paye pas, et on a eu une émission avec les difficultés que traverse Mutuelle actuellement, ce qui est très important et grave pour la prise en charge des soins. On en a parlé, mais est-ce que vous pouvez nous donner deux exemples?
On a été engagé dans des actions, par exemple, de politique de défense ou d'accompagnement de personnes qui rencontrent des difficultés médicales, principalement avec le cancer. Nous avons été engagés dans des dispositifs sur la santé mentale. Et puis, on va en parler après. Si vous prenez l'événement pour lequel je suis également venu, qui aura lieu bientôt, nous sommes à récompenser, c'est ce qui s'appelle les défis, nous récompensons également des structures qui sont sur ces champs-là et qui ont une action qui, à notre sens, vont dans le sens de la solidarité. C'est-à-dire que la réalité de notre entreprise, nous ne nous contentons pas d'être une complémentaire santé, nous regardons dans notre environnement ce qui s'y passe et nous voulons être acteurs, participer, concourir à ce qui fait le sens de la citoyenneté, puisque je pense que l'économie sociale et solidaire a certainement une vision de ce que doit être la société, la citoyenneté dans ce pays.
Et alors, on traverse une crise politique actuellement, qui influence la santé, c'est dramatique. Rappelons que l'émission est enregistrée alors que nous n'avons pas de gouvernement. Et quel est l'avenir de l'ESS ?
L'avenir de l'ESS, si vous me posez la question de savoir si on a des difficultés dans la relation avec l'État, je vous dirais oui.
Oui.
Parce qu'il n'y a pas une reconnaissance forte de la réalité de l'économie sociale et solidaire. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, puisqu'il y a un récent rapport de la Cour des comptes qui est venu le confirmer. La Cour des comptes a pointé du doigt que l'État n'avait pas de stratégie en matière d'économie sociale et solidaire, donc n'adressait pas vis-à-vis des entreprises qui la composent de véritables stratégies, et elle déplorait l'absence de coordination entre l'État et les régions, qui, vous le savez aujourd'hui, les régions ont un pouvoir économique. Il n'y a pas véritablement de la part de nos gouvernements successifs, depuis la loi de 2014, de véritables stratégies d'État.
Et c'est là où vous êtes un peu, si vous me permettez, l'huile qui fait comment bien fonctionner les rouages et...
On essaye.
Voilà, oui, vous essayez, bien
on
sûr.
On essaye avec nos organisations représentatives, et notamment au sein du Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire, de faire représenter et de défendre nos ambitions, bien sûr.
Alors, vous avez souhaité, pour notre trêve musicale, Le petit garçon de Serge Reggiani, ce qui m'a permis de réécouter, de réécouter Serge Reggiani, qu'on écoute de moins en moins. À qui nous pensons, bien évidemment. Nous pensons aussi à Stéphane Reggiani, le fils de Serge qu'il a perdu.
Ce soir, mon petit garçon, mon enfant, mon amour, il pleut sur la maison, mon garçon, mon amour. Comme tu lui ressembles, on reste tous les deux, on va bien jouer ensemble, on est là tous les deux, seuls. Ce soir elle ne rentre pas, je ne sais plus, je ne sais pas, elle écrira demain peut-être, nous aurons une lettre. Il pleut sur le jardin, je vais faire du feu. Je n'ai pas de chagrin, on est là tous les deux, seuls. Attends, je sais des histoires, il était une fois, il pleut dans ma mémoire, je crois, ne pleure pas. Attends, je sais des histoires, mais il fait un peu froid ce soir, une histoire de gens qui s'aiment. Une histoire de gens qui s'aiment, tu vas voir, ne t'en va pas, ne me laisse pas. Je ne sais plus faire du feu, mon enfant, mon amour. Je ne peux plus grand-chose, mon garçon, mon amour. Comme tu lui ressembles, on est là tous les deux. Perdu parmi les choses, dans cette grande chambre, seul. On va jouer à la guerre et tu t'endormiras Ce soir elle ne sera pas là, je ne sais plus, je ne sais pas. Je n'aime pas l'hiver. Il n'y a plus de feu, il n'y a plus rien à faire qu'à jouer tous les deux seuls. Attends, je sais des histoires. Il était une fois, je n'ai plus de mémoire, je crois. Ne pleure pas. Attends, je sais des histoires. Mais il est un peu tard ce soir. L'histoire de gens qui s'aimaient et qui jouèrent à la guerre. Écoute-moi, elle n'est plus là. Non, ne pleure pas.
Vous écoutez Votre Santé, un trésor, une émission produite et animée par le docteur Jacques Jaume sur Radio Alliance Plus, sur 103.2 FM. Nous recevons aujourd'hui M. Denis Philippe, président de la CRES Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui évoque pour nous certaines problématiques de la prise en charge de la santé actuellement. Alors, j'ai entendu dire, c'est un peu aussi le but de votre présence, et nous en avions déjà parlé lors de notre dernière rencontre, que vous prépariez un événement pour le 4 novembre prochain au Palais des Congrès d'Arles. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Avec grand plaisir. D'ailleurs, ça me permet de prendre ma casquette d'administrateur d'Aesio Mutuel, parce que
bien
là,
sûr.
Il s'agit bien d'Aesio Mutuel.
Là, c'est Aesio
Mutuel. C'est elle qui organise cet événement. C'est une très belle manifestation que nous faisons à Arles. Et l'intérêt, à mon avis, c'est que nous voulions traiter, et ça rejoint sur la question que vous me posiez, c'est-à-dire les sujets de société, c'est la place de la femme dans l'entreprise, les femmes entrepreneurs.
Oui, et oui c'est un peu différent. La femme dans l'entreprise peut être un salarié,
oui.
Et la femme entrepreneur, elle est patronne, si vous me permettez.
Exactement.
Donc c'est quand même deux. Donc vous allez traiter les deux sujets.
Et je vous remercie de faire le parallèle parce que vous voyez, dans nos mutuelles, nous avons en majorité des femmes salariées. C'est le principe. Souvent, dans nos entreprises, on trouve énormément de femmes qui sont salariées. Mais là, c'est pas du tout le sujet de la manifestation que nous allons organiser. Mm-hmm. C'est les femmes entrepreneurs.
Ah,
et organiser le débat à travers d'abord d'exemples de femmes qui ont entrepris. Est-ce qu'il y a des difficultés particulières quand on est une femme pour entreprendre ?
Oui, c'est pertinent.
Dans une société qui peut être encore un petit peu machiste. On peut se dire, entre hommes aujourd'hui...
Oui, bon, elle l'est quand même de moins en moins, la femme est reclue. Moi, je vois au niveau de la médecine, il y a plus de femmes que d'hommes. Donc, mais les femmes ont une pratique en général différente du masculin. Ce qui apporte. La diversité apporte. Donc au niveau de l'entreprise, bon, moi je ne connais pas l'entreprise, mais je la connais à travers l'expérience de femmes qui avaient des difficultés, donc c'est biaisé. Mais je suis d'accord avec vous, je pense qu'une femme, mettons une femme relativement jeune qui commence une entreprise, a sûrement plus de difficultés à gérer sa vie de femme et d'entrepreneur qu'un garçon. Quoi.
Donc vous voyez, nous allons recueillir justement les témoignages de femmes entrepreneurs et nous organisons cette soirée. En partenariat avec la CCI, la Chambre de commerce du pays d'Arles, en partenariat également avec la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, mais c'est un événement Aesio, c'est la volonté d'Aesio d'organiser cet événement. Ça part du territoire Occitanie-PACA-Corse.
Excusez-moi, donc ça montre que les mutuelles et leur engagement n'est pas uniquement de compléter le manque de remboursement, mais ce sont des acteurs.
Exactement.
Et ça, c'est important.
Et vous faites bien de le rappeler. Donc ça part de notre territoire, au départ, du travail des élus du territoire, et c'est devenu, pour Aesio Mutuel, un événement national. Parce qu'on a trouvé au niveau national...
Il y a national au niveau à Arles, ça va être quelque chose de national.
La mutuelle est une mutuelle nationale.
Oui, ça, d'accord.
Dans son organisation, elle a des territoires,
bien sûr.
Occitanie-PACA-Corse. L'événement a été préparé, voulu par le territoire,
oui.
Mais le national s'est dit vraiment, ces gens-là sont quand même dynamiques en Occitanie-PACA-Corse.
Oui,
ces élus,
preuve,
ces collaborateurs, on en a fait un événement national, donc j'invite vos auditeurs à nous rejoindre.
Mais surtout qu'Arles, c'est pas loin de Nîmes et du Gard.
Exactement, j'invite vos auditeurs à nous rejoindre le 4 novembre. Le soir à 18h, pour venir à cet événement, parce qu'on va avoir du débat qui sera très intéressant.
Au Palais des Congrès
et qui ne concerne
d'Arles.
Pas que les femmes.
Oui,
je pense que les hommes ont toute leur part à prendre.
Mais oui, parce que quand une femme crée une entreprise, elle ne va pas travailler qu'avec les femmes, elle va travailler avec les hommes. Donc c'est quand même important pour les hommes d'écouter les problématiques des femmes et de les aider ou de travailler avec elles. Donc c'est au Palais des Congrès à Arles. À quelle heure ?
18h.
Ah bah oui, donc c'était...
On a fait ça exprès pour qu'en fin de journée, rapidement, que ça ne soit pas trop tard, qu'en fin de journée, on puisse venir assister à ce débat. On le veut, on veut une table ronde qui soit très dynamique.
Oui, alors voilà, je voulais vous demander sur la méthodologie et la forme que va prendre. Est-ce que ça va être des intervenants à un pupitre, ou ça va être une scène avec un animateur, ou...
On ne veut pas que ce soit passif. Souvent, vous savez, on assiste à des événements où on est assis, on est un peu trop spectateur. On veut que ce soit dynamique. Bien évidemment, il faut entendre les témoignages de ces femmes entrepreneurs. Il y aura différents exemples qui sont très intéressants. On aura même le témoignage d'une sportive de haut niveau qui est arbitre de rugby femme.
Oui, hein. Vous pouvez donner son nom.
Je ne me souviens plus de son nom, ah bon, je m'en excuse, ouais. Mais elle sera présente. Et puis qui est également chef d'entreprise. Donc on aura...
Ah, elle fait les deux.
Elle fait les deux et ça, à mon avis, ça me semble intéressant. On aura une soirée qui sera animé, qui sera entrecoupé de projections, justement, oui. Où on verra ces entreprises, où on aura des témoignages. Et puis surtout, je le disais, je l'ai indiqué à la fin, nous aurons, dans ce cadre de ce que nous appelons les défis, nous récompenserons également des femmes entrepreneurs qui ne sont pas forcément mutualistes, qui peuvent être associatives, qui peuvent être dans d'autres secteurs. Et je tiens à dire quand même que dans les témoignages que nous allons faire, il n'y a pas que des entrepreneurs de l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire, nous avons voulu traiter la question de la femme qui entreprend de façon la plus large possible.
Bien sûr. Et vous avez fait vos choix, déjà.
Bon, on est obligé, malheureusement. Même si choisir, c'est renoncer, il faut bien parfois...
Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples, justement, de ces entreprises que des dames ont fondées ?
C'est dans tous les secteurs. Vous avez, par exemple, nous pourrions, dans l'économie sociale et solidaire, considérer qu'une femme qui reprend, par exemple, une coopérative et qui la développe, c'est un exemple d'entrepreneuriat. Mmh. Mais je dirais aussi, une femme qui prend la présidence d'une association, c'est une forme d'entrepreneuriat. Mmh. Après, vous avez des femmes qui sont sur des secteurs économiques qui ne sont pas ceux de l'ESS, qui sont commerçantes, qui sont profession libérale, qui s'engagent, qui gèrent leur entreprise en plus de leur pratique. Dans la pratique médicale, il faut savoir s'organiser. On peut être un très bon praticien.
Il faut savoir tout faire.
On n'est pas forcément préparé à être un chef d'entreprise. Ça va être intéressant.
L'université ne nous prépare pas justement à être un chef d'entreprise.
Exactement.
En médecine libérale, quand vous êtes salarié, bon, ben là, c'est pas pareil. Mais en médecine libérale, et pas que les médecins, hein, les infirmières, les kinés, etc. Le secteur médical libéral, bien qu'il est de moins en moins libéral, en fait, il est quand même libéral. Il y a de la comptabilité, il y a du droit, il y a du management, il y a du conflictuel. Il y a pas uniquement de la prescription et du diagnostic, quoi. Ce qui fait peur un peu aux jeunes, parce que c'est de plus en plus... C'est une petite parenthèse, mais c'est de plus en plus difficile. Et par exemple, je vois mes consoeurs, elles ont leur vie quand même. Hein. Une vie de femme, qu'on le veuille ou pas, est quand même différente d'une vie d'homme. Et quand elles ont un cabinet, ben elles sont confrontées à quand même de multiples soucis, ce qui n'existait pas avec des consoeurs que j'ai rencontrés dans les années 70, ou avec la sécurité sociale, ça se passait bien.
Mais vous voyez ce que vous dites, ça fait toucher du doigt quelque chose que nous allons pointer aussi dans cette soirée, c'est que parfois les femmes sont plus prudentes pour entreprendre. C'est l'occasion aussi pour leur dire « Mesdames, entreprenez ». Oui. Elles sont certainement plus prudentes que les hommes, il faut le reconnaître. Et on le constate dans toutes les organisations représentatives d'employeurs ou d'entreprises. Souvent, les femmes sont plus prudentes que les hommes, sont plus tendantes parfois à prendre moins de risques. Oui. Mais par contre, quand elles entreprennent bien. Mais au moment où l'entreprise se développe, elles redeviennent parfois trop prudentes à des moments où elles auraient la possibilité de développer l'entreprise. Elles ne le font pas forcément. Oui, donc nous sommes là aussi pour encourager les femmes à entreprendre.
Et si vous me permettez une réflexion sur mes expériences, donc c'est faux, quoi. Mais je crois qu'elles ont raison d'être prudentes, et elles sont beaucoup plus fiables. Les hommes, les garçons sont un peu plus tête en l'air, ils foncent un peu plus. Elles sont quand même plus, elles voient plus, elles font plus d'études de marché, même si c'est pas structuré. Donc ça leur donne une impression d'être prudentes, mais elles sont sages. Et donc quand elles y vont, si vous me permettez, c'est mieux organisé. Les garçons, c'est plus brouillon. Ça, ils paraissent faits plus, mais c'est plus organisé. Et puis, ce qu'il y a, c'est que les femmes savent gérer, quoi. Elles savent gérer sur le long terme. Et on le voit avec la famille, quoi. Et donc ça, pour une entreprise, à mon avis, c'est un bon... Et puis, elles sont plus sensibles au relationnel, peut-être, que les hommes. Elles sont J'ai peut-être un terme qui va être réducteur par rapport aux femmes, mais c'est dans mon esprit positif. Elles sont plus maternelles, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que je pense qu'elles vont être plus sensibles à certaines situations, alors qu'un homme va être beaucoup plus dans le côté productif. Donc ce sont des avantages quand il y a des femmes qui font. Et dans des cabinets, alors il y a des cabinets de dames qui sont seules, je parle des médecins parce que c'est quelque chose que je connais, mais dans un groupe, des fois, elles tempèrent.
C'est la raison pour laquelle, si vous permettez, on a intérêt à venir le 4 novembre à Arles, écouter ces femmes entrepreneurs qui vont nous expliquer la raison pour laquelle elles ont choisi d'entreprendre, quelles sont les difficultés qu'elles ont rencontrées et la façon dont elles voient la façon dont on doit gérer une entreprise pour la suite.
Bon, mais alors venez tous au Palais des Congrès d'Arles le 4 novembre à 18h. Alors merci donc à vous d'avoir participé à Votre Santé, un trésor et d'avoir abordé votre actualité et donc ce projet d'intervention. J'ai l'habitude de finir cette émission par une rubrique de fin d'émission, des livres sur la santé aujourd'hui. Les livres que vous nous conseillez?
Alors, ce n'est pas des livres sur la santé, je m'en excuse.
Non, mais...
Il y a forcément un livre qui a trait à l'économie sociale et solidaire, vous l'avez lu. Mais il y a un livre qui m'a particulièrement intéressé, qui est un livre de Jean Garrigue, qui est un historien, et qui a repris un peu les bons mots de Georges Clemenceau. Et j'ai vraiment été passionné, parce que Clemenceau, on le sait, c'était un brillant orateur. C'était quelqu'un qui était redouté dans l'hémicycle à l'époque des parlementaires. Et puis, ça a été... quelqu'un qui a eu un destin un peu particulier. Il a été toute sa vie un homme politique engagé, un homme de presse. Et puis est arrivée la Première Guerre mondiale. Il est devenu le tigre qui s'est développé. Il est devenu également le père de la victoire. Et puis tout de suite après la guerre, les Français n'en ont plus voulu. En ce sens, il a eu un peu le même destin que Winston Churchill.
Ouais, et puis vous nous avez cité aussi Les oubliés de la démocratie de François-Michel Marty, sociologue et président de la Via Vox, c'est ça, hein ?
C'est ça. C'est-à-dire que là, on a un regard véritablement qui peut, nous, acteurs de l'ESS, nous intéresser sur la situation de notre société, sur les gens qu'on peut laisser sur le bord du chemin, sur une situation qui se dégrade, à laquelle nous, vous le comprendrez, mutualistes de l'ESS, on ne peut forcément ne pas être insensible.
Eh bien, merci à vous, Monsieur le Président. Alors, je remercie aussi Louis à la technique et Chaline au visuel. Je vous renouvelle mon annonce sur l'adhésion à Radio Alliance Plus à laquelle vous pouvez souscrire pour que notre radio puisse vivre. Merci d'avance. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous remercie de votre attention et de l'écoute de Votre Santé, un trésor sur Radio Alliance Plus sur 103.2 FM. À bientôt. Je reste votre bien dévoué.